Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaie de faire tourner, comment dire ça, tourner la vapeur, ça se dit.
On va tous monter d'un cran, monter le cursus. Et c'est ça qu'on doit travailler quand tu as bien travaillé l'entraînement et monter le petit cursus pour être le meilleur possible.
C'est franchement un match de fou, un scénario de dingue. Et je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entendais de dire que c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
22h47, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit à mes côtés dans l'afterfoot. Maxime Chano, Lionel Charbonnier, bonsoir les garçons.
Salut Karine, salut Max.
Salut Karine, salut Lionel, salut à tous.
Au programme évidemment cette séance de turbu complètement dingue. Saint-Etienne continue l'aventure, l'opération retour en Ligue 1 aux dépens de Rodez, 7 tirs au but à 6. Le match était nul, on va l'oublier, mais on va évidemment revenir sur cette séance de tirs au but. Il y a eu 0-0 après les 90 minutes. On parlera de Mbappé, il allait trop loin, il s'en est pris à son entraîneur en parlant d'une première partie de saison réussie avec Xabi Alonso et d'une deuxième partie de saison ratée quand Arbeloa est arrivé. On parlera également du choix de Didier Deschamps, Robin Rissert en numéro 3, est-ce une bonne idée? Lionel Charbonnier, champion du monde 98, nous dira tout. Et puis cette place en Europa League qui pourrait sauver la saison de l'OM, vous êtes d'accord ou pas? On en parle ensemble jusqu'à minuit. Messieurs, on attend évidemment des supporters stéphanois au 32-16. On va revenir sur ce match. On l'a dit, hein, la qualité du match n'était absolument pas au rendez-vous. On a senti les joueurs qui étaient vraiment pris par l'enjeu. 0-0, 90 minutes, on oublie tout entre Saint-Etienne et Rodez. Et puis, cette séance de tir au but. Philippe Montagnier décide de sortir Larsonneur, le capitaine, le gardien de Saint-Etienne, pour faire rentrer Maubleu, le gardien. Il a été énorme. 4 arrêts de la part de Maubleu. Et celui qui mettra le dernier tir au but, c'est en plus évidemment marquant, c'est Nadé, l'ancien hein, stéphanois, le défenseur de 27 ans, celui qui est au club depuis longtemps. Et donc l'aventure continue pour Saint-Etienne. On rappelle qu'il y aura donc 2 matchs maintenant face au 16e de Ligue 1. Messieurs, cette séance de tir au but, elle a été complètement folle parce qu'il y a eu un avantage de 2 tirs au but pour les stéphanois. Ils se sont écroulés. Il y a eu une moult rebondissement dans cette période vraiment du match. On oublie les 90 minutes, mais par contre, on garde le reste.
Ah ouais, complètement. Bah là, toutes les émotions, elles se sont. Ce qu'on aurait dû avoir en 90 minutes, ça s'est condensé en 5 minutes, 10 minutes de tir au but, avec la bonne intuition. Mais c'est plus qu'une intuition, puisque Doudou nous disait que les Stéphanois avaient tiré, s'étaient entraînés pour les pénalties, les tirs au but, pardon, toute la semaine. Donc, ça veut dire aussi qu'il avait remarqué que Maubleu était excellent, sûrement toute la semaine, et donc il arrivait là, galvanisé, il en arrête 4. Alors bravo aussi à Bratt, hein, qu'en arrête 3, c'est pas rien d'arrêter 3 pénaltys non plus, mais écoute, honnêtement, à plus 2, je me suis dit, ça va être compliqué pour les...
Ouais, quand ça s'inverse à un moment donné.
Ça va être compliqué pour les joueurs de Rodez. Et puis après, ça s'est inversé à 2-2. J'ai dit, ils sont morts. Ça va être un remake du Red Star où Rodez va se qualifier comme ça sur un rebondissement.
D'autant que les joueurs de Rodez tiraient en premier, donc Saint-Etienne a eu entre guillemets 3 balles de match.
Hein. De c'était doute,
En tout cas, ils ne pouvaient pas se permettre de louper. Il y a le gamin là, de 17 ans, 18 ans là, qui a marqué le 5e penalty.
Incroyable, le mental.
Voilà, fait du bien d'être jeune. Mais en effet, bravo à Philippe Montagnier d'avoir fait le choix de faire rentrer Maubleu. Maubleu, on le connaît très bien à Grenoble. Hein. Il a officié là-haut pendant plus d'une dizaine d'années, lui qui a été formé au club. Mais c'est vrai que tu l'as dit très justement, Charbonnier. Hein. Je pense que l'entraîneur connaissait exactement les qualités.
Tu l'appelles
Charbonnier
donc.
Qu'est-ce que j'ai dit, Lionel?
Charbonnier.
Ah bah Lionel.
À la place de Lionel.
Non mais ce que j'avais l'habitude de le voir jouer, tu sais, on appelle toujours
je
les
footballeurs. Je t'en veux pas, une fois je faisais une émission, j'ai appelé Edouard Cissé et il m'a vanné tout le reste de l'émission. J'étais sûr de l'avoir appelé Edouard, mais évidemment.
C'est pas un grand manque de respect, tu sais tout le respect que j'ai pour toi, Lionel. Non, plus sérieusement, en tout cas, comme disait Lionel, je pense que l'entraîneur connaît très très bien son groupe et donc c'était prévu de faire rentrer Maubleu, lui qui est grand, 1m92, donc on sait que ça peut être impressionnant dans les cages d'avoir un joueur, en tout cas un gardien comme lui, et puis derrière, on l'a pas dit, mais c'est quand même lui hein, qui loupe le tir au but parce qu'il a aussi la balle de match au bout du pied. Hein, Maubleu, hein, je pense que c'est sur le
9e. Derrière.
Et derrière, il doute pas, il arrête en effet le penalty du joueur de Rodez. C'est très très bien joué à l'image un petit peu hein, de ce que fait Montagnier hein, depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne. Hein, c'est vrai que ça a complètement changé l'image de l'équipe et encore une fois un bon choix de sa part.
C'est totalement fou effectivement ce qu'on a vécu lors de cette séance de tir au but. On va oublier les 90 minutes, mais cette séance de tir au but est quand même absolument dingue. On accueille Étienne supporter de Saint-Etienne. Il fallait le faire quand même. Etienne, on est ravis de t'avoir avec nous sur RMC ce soir pour parler de ce match complètement dingue et de la route qui continue pour les Stéphanois. Il y aura encore deux matchs, on le rappelle, ça sera face au 16e de Ligue 1. Pour les dates, on vous les donne, mais elles sont pas sûres parce que tout dépend évidemment de Nice. C'est jeudi 21 mai normalement sur la pelouse donc de Saint-Etienne et dimanche 24 mai sur la pelouse de Nice. Si Nice est évidemment le barragiste, on parle de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 16e, c'est Nice. Etienne, heureux ou pas ?
Bonsoir l'équipe.
Salut Etienne.
Oula !
Bonsoir Etienne.
Là, je sens qu'Etienne n'est pas heureux.
Je suis fané, j'en ai marre. Franchement, les gars, je vous le dis avec toutes mes tripes et mon cœur de supporter, ils sont insupportables et ils sont inregardables et surtout, ils sont honteux. Ils nous foutent la honte, c'est un truc de dingue. Je suis désolé, peut-être que vous pensez que j'allais exulter ou quoi que ce soit, mais sincèrement, il faut se mettre à notre place.
Non, je te comprends.
Les 90 minutes, effectivement, qui ont été très pauvres, tu les digères pas ?
Je vais être honnête avec vous. Le match, je ne l'ai pas regardé. Sinon, par choix, parce que c'est irregardable et j'ai envie de vivre. Et je savais très bien que mon cœur n'allait pas tenir devant ce truc.
Je te trouve très dur. Non, il a
raison. Max, je me permets. Moi, cette année, j'ai vu pas mal de matchs. Franchement, Max, sur les 4 derniers matchs, voilà, on a gagné 5-0 contre une équipe qui était déjà reléguée, bravo à nous.
Amiens.
Mais on a perdu 3 matchs d'affilée contre Bastia, avec tout le respect que j'ai pour mes amis corses, le paillasson de la Ligue 2. Cette équipe, ils ont rien dans le ventre, et quand bien même on ira en barrage, notre salut, c'est de tomber sur une équipe qui se regardera plus le nombril que nous. Donc, à la limite, Nice. Mais pour le reste, Rodez, ils avaient joué 3 fois à l'extérieur depuis une semaine.
En 6 jours.
Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Il faut une équipe de saisie foot en place.
Par rapport à.
Alors, Etienne, on se calme hein, quand même. Je te rappelle qu'en plus, l'équipe de saisie foot est championne olympique en 2024. Et j'embrasse Gaël Rivière, le capitaine de cette équipe qui nous a fait rêver et vibrer.
Voilà. Et si je peux me permettre, par rapport à la dynamique de Rodez, déjà, on faudrait qu'on revienne par rapport au nombre de matchs. Il me semble qu'ils sont invaincus depuis 21 ou 22 matchs, ce qui est le record en Europe. Donc, c'est dire un petit peu la dynamique un petit peu des hommes de Santini. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant aussi, tu sais, on a tendance à penser que le fait d'avoir beaucoup de repos dans ce genre de play-off, c'est un avantage. Eh bien, pas du tout, c'est le contraire. Parce que Rodez arrive justement avec une dynamique en étant prêt, ce qui n'était pas forcément le cas de Saint-Etienne. Et j'entends ce que tu veux dire dans le contenu. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce qui doit être la finalité des play-offs ou des barrages, entre guillemets ? C'est de gagner. Alors, je comprends que le contenu peut être frustrant. En effet, il y a ces 3 matchs et il y a cette défaite contre Bastia à Furiani. C'est jamais facile, malgré tout, d'aller jouer en Corse. C'est vrai qu'ils étaient derniers. Derrière, en effet, tu l'as dit aussi, tu perds contre le leader 3. Bon, 3-0 à domicile, c'est vrai que ça peut être une claque, vu comme une claque, mais on sait que 3 roulait sur la Ligue 1. Et en effet, tu as cette défaite à Rodez. Et je l'entends, je me mets de ton côté. C'est vrai que quand t'es supporter, quand tu payes ton ticket, t'as envie d'avoir du contenu, t'as envie de t'amuser au stade. Aujourd'hui, tu t'es amusé à travers les séances de pénalty. J'ai presque envie de te dire que ces performances que tu juges comme un petit peu ratées, elles seraient vite oubliées si jamais vous arrivez à accéder en Ligue 1.
Alors Étienne, juste Maxime, pour savoir, est-ce que tu vas regarder les 2 matchs ? Parce que là, vous êtes à 2 matchs d'un retour en Ligue 1. On rappelle que vous étiez descendu l'an dernier, ou tu vas faire la même chose que ce soir ?
Oui, non, je vais devoir mettre au travail, j'aurai pas le choix. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en plus, vous connaissez la situation économique du football français. Mais vous savez, on a dépensé combien au mercato d'été ?
Énormément, on en a parlé avec Edouard G et Damien tout à l'heure.
On a mis le PIB du Soudan, mais est-ce que vous vous rendez compte ?
Etienne, arrête avec ces comparaisons par rapport au Soudan, le Cécifoot, foot, c'est pas correct, en fait.
C'est difficile, en fait, c'est la honte. Moi, personnellement, je peux pas savourer, j'ai honte. Moi, je vous dis honnêtement, voir 3 et Le Mans, des équipes qui travaillent bien, avec peu de moyens, les 3 à la limite, c'est différent parce qu'ils ont la galaxie. Mais franchement, c'est pas possible de se réjouir, en fait. Moi, je comprends pas comment c'est possible en Ligue 2 BKT, avec 30 millions d'euros d'investissement, de pas monter directement. Expliquez-moi à quel moment on doit se réjouir, je comprends pas. C'est un truc de dingue.
Eh ben, écoute, Étienne, nous avons Johan Guillet qui fait les paris avec nous, qui est supporter stéphanois. Eh ben, il a couru comme un fou dans le studio. Il était heureux, soulagé. Je pense qu'évidemment, il n'a pas forcément pris du plaisir en voyant la qualité du match, parce qu'on l'a dit, elle n'était pas au rendez-vous.
Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il est venu me voir. Il m'a tapé dans le dos, tu vois. Il a tapé dans le dos d'un Auxerrois.
Oui, imagine la double confrontation. Voilà. Johan Guillet, par exemple, eh ben, il a pris du plaisir là où il en avait, c'est-à-dire juste dans le résultat.
Non, mais là où je comprends Étienne, c'est juste dans le contenu. C'est-à-dire que tu peux jouer mal, tu peux rater des passes, mais dans l'envie, dans l'enthousiasme, tu joues une équipe qui a joué trois matchs quand même, trois matchs en six jours. Les mecs, ils sont rôtis cuits. Et derrière, tu vois un espèce de pseudo pressing où tes propres joueurs sont à 15 mètres de leur adversaire direct. Il y a pas assez, ils ont pas mis assez de pression, ils ont pas mis. Je veux bien que que l'enjeu prenne le pas sur le jeu, mais ne serait-ce que dans l'envie. Même si l'enjeu est très important, dans l'envie, tu dois te rapprocher. T'es à Geoffroy Guichard devant tes, mets-leur la pression. Il y a déjà une pression dans les tribunes. Mets la pression sous le terrain, essaie de les faire. Mais ça, moi, je suis supporter, je ne peux pas le comprendre.
Oui,
moi, juste là-dessus. Après, effectivement. Franchement, ce qui est très important dans ces matchs-là, c'est les trois points. C'est tu passes au tour suivant et c'est la qualif. Mais eux, ça fait un petit moment qu'ils le vivent comme ça.
Après, depuis l'arrivée de Montagnier, on l'a dit, le 7 février 2026, c'est où est-ce qu'ils gagnent leur premier match contre Montpellier à domicile. T'as quand même une série, je pense, de 9 matchs en défaite.
Ouais, mais après, t'as un mois d'avril catastrophique.
Ouais, non, je te l'accorde, Lionel, et c'est la raison pour laquelle
ils payent leur place.
C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent en barrage. Et notre auditeur l'a dit très justement, avec un budget qui a été quand même alloué pour le mercato d'été assez conséquent pour la Ligue 2. C'est normalement une équipe qui aurait dû retrouver la Ligue 1, non pas par les barrages, mais directement comme l'a fait les Stacks ou Le Mans. Maintenant, la réalité, elle est telle qu'elle. Ils se retrouvent en barrage. Et j'entends qu'en effet, tu payes ton billet et que tu as envie d'avoir du super contenu. Maintenant, la réalité, c'est que si jamais Saint-Etienne devait gagner et accéder en Ligue 1, je pense que les trois matchs qu'ils ont loupés en Ligue 2 et ce fameux match contre Troyes seraient oubliés. Puis ils iraient faire la fête et puis ils iraient récupérer l'argent de la Ligue 1 des droits télé. Voilà, c'est tout.
Ouais, merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous au 32-16 et on espère que tu retrouveras le sourire, même si évidemment on comprend ta frustration, parce que effectivement Saint-Étienne était quand même programmé pour tenter une remontée directe, et on le rappelle que c'est Troyes qui a été champion de Ligue 2 et surtout Le Mans qui a fait un travail formidable avec la double montée nationale Gomez. Ligue 2, Ligue 1. On rappelle que Le Mans avait quitté la Ligue 1 il y a 16 ans et il y a 13 ans ils avaient tout perdu. C'était le club qui était tombé après des problèmes financiers.
Construction d'un nouveau stade et tout extraordinaire et tout ça. Ils ont tout perdu.
C'est absolument.
Et là, ils ont tout regagné. Bravo.
C'est absolument dingue. Messieurs, on en parlait effectivement de ces dynamiques. Est-ce que pour vous, il y a plusieurs années, c'était souvent le club de Ligue 1 qui finalement restait en Ligue 1 lorsqu'il jouait ses barrages. Et puis la tendance, elle s'est inversée ces dernières années. Est-ce que vous partagez toujours ce constat ? Est-ce que pour vous, Saint-Etienne sera le favori ? On ne sait pas l'identité du 16e, on le rappelle, mais est-ce que pour vous, Saint-Etienne sera favori par rapport à l'équipe qui potentiellement perdra tout, alors que Saint-Etienne, eux, ils ont encore ce rêve de la Ligue 1 ?
Pour moi, non. Pour moi, non. Là, sur ce que je vois, sur la dynamique de jeu stéphanoise, plus deux matchs comme ça aller-retour, quand tu vois la pression qu'ils ont eue ce soir, ils n'ont pas dominé la pression. Même si on peut dire oui, mais ça sera un autre match, ça sera un autre. Non, pour moi, dans le jeu, je vois que ce soit Auxerre, que ce soit Nice, même Le Havre. Si c'est Le Havre qui peut être amené à jouer les barrages. Pour moi, sur deux matchs, ces trois équipes-là, dans le jeu, sont supérieures aux Stéphanois.
Après, il faut remettre dans le contexte, en règle générale, c'est vrai que l'équipe de Ligue 2 qui est censée faire les barrages est, en règle générale, dans une dynamique positive.
Sur les dernières années, en tout cas, ça a été plutôt ça.
C'est vrai que ça n'a pas été le cas sur les premières années, tu l'as très justement dit, mais en tout cas, mentalement, je pense que les joueurs sont frais, ils vivent une saison qui est plutôt agréable, à l'instar, mais au contraire.
Pas Saint-Etienne.
Bah en tout cas, sur les 10 derniers matchs, à part ce fameux mois d'avril, comme tu l'as dit.
Messieurs, je vous coupe. On a un invité exceptionnel. C'est le gardien de Saint-Etienne, Brice Maubleu. Il est entré pour la séance de tir au but et il est le héros avec évidemment ses coéquipiers de cette séance de tir au but. Brice, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. L'aventure continue. Il y aura deux matchs face au 16e de Ligue 1. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette séance de tir au but, parce que il y a plein d'histoires dans l'histoire. Vous avez mené par deux tirs au but d'avance. chance, Rodez est revenu, vous avez raté votre tir au but et juste derrière, vous avez stoppé celui de Rodez. C'est complètement dingue, j'imagine, dans votre tête, ce que vous avez vécu ce soir.
Oui, bonsoir à tous. C'est déjà, c'est exceptionnel d'être passé dans une ambiance comme ça. La séance de tir au but était assez incroyable, en effet, parce que quand on mène 2-0, qu'on a la balle de match sur le cinquième et que le gardien fait l'arrêt, c'est sûr que à la mort subite, après, ça change tout. Arrêter les pénalties, ça, je savais que je connaissais, je savais faire. Après, les tirer, c'était le premier tir en carrière.
Vous êtes entraîné toute la semaine. Tu savais que tu arrêtais les pénaux parce que toute la semaine, vous êtes entraîné. C'est aussi pour ça que peut-être que Philippe t'a fait rentrer pour les. T'étais très performant sur cet exercice.
Ouais, en carrière, je suis plutôt pas mauvais dans le domaine sur les dernières années. Je suis quasiment à 50%. Et c'est vrai que j'ai bassé toute la semaine. On les a bossés avec les mecs, hein, après chaque entraînement.
Et tu les tirais aussi?
J'en ai tiré. Ouais, je l'ai tiré mieux que ça. Ouais, non, ouais, je l'ai tiré. Même je donnais des conseils aux mecs pour les tirer. Mais je vais plus rien dire maintenant.
Par contre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ton penalty est arrêté et derrière t'as l'autre, t'es galvanisé, t'es gonflé à bloc, tu dis c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, toi? Comment tu le ressens? Est-ce que tu sens, parce que parfois c'est Lionel, hein, qui parle, Charbonnier. Parfois on sent que le penalty, on va l'arrêter. On a des espèces de frissons qui arrivent et on se dit celui-là, il est pour moi, je vais l'arrêter, c'est sûr. Est-ce que tu as eu cette sensation aussi à ce moment-là?
Ouais, après avoir loupé le penalty, je suis parti dans la cage en me disant, celui-là, t'es obligé de l'arrêter, là, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Après, un penalty tiré aussi moche, là, il faut que tu la sortes. Et quand il a pris sa course d'élan, j'ai dit, je sais pas du tout. Sur la série de penalty. Non, j'ai pas douté. Je dis, allez, je pars à fond. Pierre mène pas les tirs, tant pis. Mais ça m'étonnerait que le 9e tireur, il l'attente. Donc après, j'ai arrêté. Il suffisait plus qu'à Mika Nadé. Suffisait.
Bravo à toi pour le mental et à tout le monde aussi.
Brice Maugle, le gardien de Saint-Etienne, est notre invité. On rappelle que vous avez remplacé l'Arsonneur juste pour cette séance de tir au but et qu'au final, vous êtes l'un des héros de la soirée. Maxime Chano est avec nous. Il a une question pour vous.
Salut Brice. En tout cas, félicitations pour votre saison et puis pour ta séance de pénalty. On a en effet eu très très peur pour toi quand tu loupes ce pénalty. Derrière, tu as très très bien réagi. Ça montre un petit peu justement ta mentalité et ton gros caractère. Moi, je voulais savoir un petit peu la relation avec le gardien numéro 1 de Saint-Etienne, à un moment donné où tu dois rentrer, comment que ça se passe? Est-ce que c'est bien vécu par le gardien? Comment est l'entente entre vous deux? Parce qu'encore une fois, c'est un choix fort de la part de Montagnier de te faire rentrer. Il a encore une fois le nez creux. Quelle est la relation avec en tant que gardien et comment que ça se passe? Est-ce qu'il t'encourage au moment de rentrer? Est-ce que c'était prévu? Dis-nous tout un petit peu.
On en a parlé hier. Oui, c'était prévu. C'était prévu s'il n'y avait pas eu tous les changements que je rentre sur la fin, parce que justement c'est un domaine où je suis plutôt à l'aise. Et Gauthier, il a proposé aussi au coach que je le fasse. Donc
ça monte la super ambiance, en tout cas entre toi et l'Arsenal, ouais, c'est cool ça.
Ouais, voilà. Bon, par contre, je rentre, il y a une occasion pour Rodez, je me dis si on prend un but.
Ah oui, le contre.
Série, ouais, le contre. Ouais. Alors que j'ai pas encore touché un ballon, c'était tendu, mais oui, c'était prévu.
Merci beaucoup,
en tout cas, bravo à
Brice, d'avoir été notre invité. Brice Maubleu, le gardien de but qui a permis à Saint-Etienne de remporter cette séance de tir au but avec 4 arrêts. Bravo Brice, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC. Un grand merci à Edouard G et Damien Tardieu qui nous ont permis d'avoir le héros de la soirée, avec également Mika Nadé, évidemment le joueur formé à Saint-Etienne et qui a marqué le dernier tir au but, le tir au but vainqueur. On rappelle, 7 tirs au but à 6 en faveur de Saint-Etienne face à Rodez, alors qu'il y avait 0-0. Dans quelques instants, messieurs, évidemment, on va continuer de parler de l'actualité. C'est chaud en Espagne. Mbappé qui a tiré à balles réelles sur Arbeloa, son entraîneur. On parle en zone mixte. On parlera également de notre Ligue 1 avec l'épilogue qui sera dimanche. On est ensemble jusqu'à 20h, jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h09, on est ensemble sur RMC avec Lionel Charbonnier et Maxime Chanot. Je vous rappelle que Saint-Etienne continue son parcours vers la Ligue 1 aux dépens de Rodez. Il y a eu 0-0 lors du temps réglementaire et lors de la séance de tir au but. Eh bien, c'est Saint-Etienne qui s'est imposé et nous étions avec le gardien Brice Maubleu. Vous pouvez retrouver évidemment cet entretien sur rmcsport.fr et sur le podcast. On va tout de suite partir en Espagne, retrouver Edgar Grollo. La crise continue à Madrid. Bonsoir Edgar.
Salut Karine, salut Maxime, salut Lionel.
Salut Edgar.
On rappelle que hier soir, donc, il y avait un match en Liga. Le Real Madrid était opposé au dernier Oviedo. 2-0. Kylian Mbappé n'était pas titulaire. Il est rentré à la 69e minute. Et donc, Kylian Mbappé a voulu prendre la parole. Il est passé en zone mixte. On rappelle que c'est pas une habitude, hein. S'il est passé en zone mixte, c'est qu'il avait des choses à dire. Et effectivement, il a livré quelques vérités. Il s'en est pris, notamment au choix de l'entraîneur et aussi au changement d'entraîneur. Oui. Ça allait bien quand il y avait Xabi Alonso, selon lui, et la deuxième partie de saison, elle est ratée, c'est-à-dire quand il y a eu Arbeloa.
Oui, il dit qu'il y avait une structure en première partie de saison, qu'il y a moins de structure aujourd'hui, et ce qui était intéressant, c'est qu'il est revenu donc sur le fait qu'il n'était pas titulaire hier soir. Écoutez son explication à cette non-titularisation.
Je suis très bien, à 100%. Je n'étais pas titulaire parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif. Demandez à l'entraîneur, que voulez-vous que je vous dise? Il faut respecter la décision du coach et je dois travailler pour être meilleur que Mastantuono, Gonzalo Garcia et Vinicius.
Et évidemment, sa présence, tu l'as dit, était une surprise pour tout le monde. Il a pris tout le monde de court, y compris son propre coach, puisque au moment où la zone mixte, la zone d'interview, donc, était en train de se terminer avec Kylian Mbappé, Alvaro Arbeloa était en train d'arriver en conférence de presse. Évidemment, alors on n'a pas le temps de tout écouter, mais Kylian Mbappé a parlé de tous les sujets possibles et imaginables. Donc, Alvaro Arbeloa a été interrogé sur tous les sujets possibles et imaginables et sur toutes ces déclarations de Kylian Mbappé. Et dès le départ, on lui pose la question, on lui dit, voilà, Kylian Mbappé a dit que vous lui avez dit qu'il était le quatrième attaquant de l'effectif. Qu'avez-vous à répondre à ça? Et on entend à la réponse et on voit sur le visage d'Alvaro Arbeloa qu'il est extrêmement surpris de cette question.
J'aimerais bien avoir quatre attaquants, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas trop quoi dire. Je n'ai pas quatre attaquants et je n'ai jamais dit ça. Il n'a probablement pas compris. Je ne sais pas trop quoi dire parce qu'à aucun moment, j'ai pu lui dire que c'est le quatrième attaquant de l'équipe. Il est clair que si je ne le fais pas jouer, il ne peut pas jouer. Je suis l'entraîneur et c'est moi qui décide de qui joue et qui ne joue pas.
Et sur l'évolution de la structure entre la première partie et la deuxième partie, il a répondu, bah, en tout cas ce qui est sûr c'est que Kylian Mbappé il marquait plus de buts en première partie de saison qu'en deuxième partie de saison. Voilà, il n'y a pas une ambiance extrêmement chaleureuse qui s'est dégagée du Bernabéu hier.
Edgar, il faut rappeler également que Mbappé est entré sous une bronca du Bernabéu et qu'il a donc aussi critiqué finalement les changements. Est-ce que c'est une critique aussi envers Florentino Pérez? Parce que lui, il était content de Xabi Alonso. Le boss, Florentino Pérez, a décidé de changer et il nous explique que la deuxième partie de saison, elle est ratée donc avec ce changement d'entraîneur décidé par le patron, Florentino Pérez, qui nous a proposé une conférence de presse, on le rappelle, complètement lunaire il y a deux jours.
Ouais, alors je sais pas si c'est une critique de Florentino Pérez, même si t'as raison, indirectement ça inclut forcément le choix de la direction, parce qu'il a répété notamment en zone mixte que c'était le meilleur entraîneur du monde, le meilleur entraîneur de l'histoire du Real, etc. Je pense par contre que c'est une critique indirecte aussi à certains de ses coéquipiers qui n'ont pas soutenu le projet de Xabi Alonso, et d'ailleurs il a aussi lancé un petit pic à ses coéquipiers, même plusieurs, parce que quand il dit je dois travailler pour être meilleur que Mastantuono, Gonzalo Garcia et Vinicius, évidemment c'est sur le ton de l'ironie et évidemment il y a quand même un manque de respect envers au moins Mastantuono et Gonzalo Garcia, parce que évidemment tout le monde sait qu'il est meilleur qu'eux et donc c'est un manque de respect pour eux. Et aussi il a dit un moment, la question lui est posée de savoir pourquoi il est venu en zone mixte, et il dit moi je voulais m'expliquer directement, parler avec ma bouche directement à la presse, parce que il y en a d'autres qui ne le font pas. Et moi, j'apprends ce qu'il pense en lisant la presse. Sous-entendu, toutes les fuites qu'il y a pu avoir dans la presse ces derniers mois sur un tel n'aime pas Mbappé, un tel préfère l'autre, un tel et un tel ne s'entendent pas. Tout ce qu'on a pu lire dans la presse espagnole ces dernières semaines, ces derniers mois, ça plaît pas du tout à Kylian Mbappé.
Alors écoute, moi je trouve la scène complètement lunaire. Je sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, on attend d'en débattre. Mais en fait, quand tu regardes un petit peu, quand tu remets dans le contexte, 4 jours plus tôt, contre Barcelone, lors du Classico, il est même pas sur la feuille de match. Donc ça me paraît quand même tout à fait logique de pas voir Kylian Mbappé titulaire.
C'est ce que dit Hervé Lois d'ailleurs.
Au coup d'envoi contre Oviedo. Enfin, jusqu'à là, ça me paraît logique. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu charges ton entraîneur. Tu sais qu'il va partir, tu sais qu'il reste que 2 matchs et que l'année prochaine, il n'y aura plus d'Hervé Lois. Et comme tu l'as dit très justement, Edgar, par contre, la communication vis-à-vis de ses coéquipiers, c'est scandaleux vis-à-vis de Vinicius. Mais encore, Vinicius, il a un statut. C'est scandaleux vis-à-vis de Gonzalo Garcia, de Mastantueno, comme tu l'as dit. Enfin, moi, la constante que j'ai par rapport à Kylian Mbappé, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que sa communication, elle est quand même catastrophique.
C'est de pire en pire.
Elle est catastrophique. Et quand tu regardes un petit peu là ce qui s'est passé, rien qu'allez, on va même pas revenir à quelques semaines ou quelques mois. Il y a cette fameuse virée là en Italie avec sa nouvelle copine. Il y a le tweet à la Madrid alors que ses coéquipiers sont en train de perdre 2-0 contre le FC Barcelone. Enfin là, on parle quand même d'une icône mondiale. J'arrive pas à comprendre comment il y a personne derrière là qui est en train d'essayer de gérer sa communication parce qu'il est en train de s'enfoncer dans de la médiocrité par rapport à sa communication. Elle est scandaleuse. Et surtout, il y a une chose que j'ai envie de lui dire à Kylian, c'est que le football, il évolue, il a changé, et surtout que le collectif s'apprime de plus en plus sur les individualités. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, je vais être très honnête avec vous, et dans la manière dont il se comporte sur le terrain, en dehors du terrain, pour moi, le profil de Kylian Mbappé, ça offre plus les mêmes avantages que quand il a commencé en 2017, où est-ce que le football était très centré sur les individualités. Et là, je peux te dire que je sois l'entraîneur, ou alors si j'avais été ses coéquipiers, eh ben, je suis pas convaincu qu'en tout cas, j'aurais très très bien réagi, Karine et Lionel. Je sais pas ce que t'en penses, Lionel. Mais...
Alors après, juste, on rappelle quand même que il était off, c'est-à-dire qu'il avait des jours qui étaient donnés par le Real Madrid et que ce n'est pas le seul joueur qui est parti également et qui a quitté Madrid. Donc en fait, quand, à partir du moment où tu as une possibilité, il fait ce qu'il veut. On peut pas reprocher à Kylian Mbappé d'être parti en Italie. D'ailleurs, il a dit, vous savez pas ce que j'ai fait en Italie, sous-entendu peut-être qu'il s'est entraîné ou je ne sais quoi. Là, il s'est pas mis à la faute. Mais... Alors que hier, on peut dire que c'est peut-être une faute envers sa direction, son entraîneur et ses coéquipiers.
Ses coéquipiers c'est une faute, pour moi c'est une faute de communication. Je suis entièrement d'accord avec Max, bien évidemment.
Et c'est voulu de sa part, c'est pas un hasard.
Bien évidemment, c'est d'ailleurs c'est ce qui m'embête, parce que comme le disait Edgar là, le problème c'est qu'il reproche à certains de ses coéquipiers d'avoir voulu écarter Xavi Alonso, mais lui d'un autre côté aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se foutre de la gueule de l'entraîneur d'Arbeola, je vais y arriver.
Arbeloa, c'est ça.
Arbeloa. Ouais. Et donc, par rapport à ça, je trouve ça, mais il dit tout et son contraire. Il est complètement à l'envers. Pour moi, autant Kylian, mais franchement, il m'a fait rêver. Autant je disais, c'était surtout sur lorsqu'il était à Monaco et tout ça. Il parlait très bien, il était très bon, il se donnait pour le groupe, pour tout ça. Et là, il est parti depuis quelques années. Il est parti en live. Même sa communication, je ne veux plus l'entendre. J'en peux plus. Il y a eu tout un contexte. Alors que lui, il a créé, que d'autres ont créé. Ça s'est envenimé et pour moi il a perdu les pédales de sa com. Il a perdu, c'est pas spécial à lui, il est pas le seul fautif, mais en tout cas il ne la maîtrise plus et moi il m'a perdu aussi, parce que là autant je disais il m'a fait pleurer, je te promets Max, hein. Je l'ai vu jouer, j'ai dit waouh, c'est quoi ce mec, mais on se rend pas compte du joueur, du talent qu'il a. Il a parlé, j'ai dit en plus il sait s'exprimer et tout, mais là je n'en peux plus. Mbappé, c'est fini, il m'a perdu.
Tu le sais très bien, mais il y a un avant et un après Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'en effet il est arrivé dans le monde du football, c'était un ovni, il était déjà sur le terrain, n'en parlons pas, mais il était très bon et très frais dans sa communication. Je me souviens moi aussi, hein, quand je le vois sur ses premières interventions, je me dis waouh, on tient un phénomène
partout, même sur le terrain, c'est vrai
qu'aujourd'hui si tu refais un peu dans le contexte et tu regardes historiquement, Mbappé c'est presque tous les mois une polémique. Alors je l'entends, cette virée en Italie, en effet il avait des jours libres, mais tu sais très bien que t'es dans l'œil de la tourmente et t'es là, au lieu de la jouer discret, tu remets une couche comme ça sur ton entraîneur, que je répète encore une fois, mais qui va partir à la fin de la saison, tu sais qu'il sera plus là l'année prochaine, à quoi ça sert? Et quand hier, moi, je disais, j'avais un peu peur pour l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026, qui intrinsèquement est la meilleure équipe de ce mondial, mais en fait, j'ai un peu peur des individualités et des égos. Et c'est vrai que ce que m'a montré encore une fois Kylian Mbappé hier à travers sa communication, j'espère qu'il saura se mettre au diapason de l'équipe de France, au diapason du collectif, parce qu'aujourd'hui, l'individualité dans le football moderne ne fonctionne plus.
Edgar, en Espagne, quelles sont les retombées suite à sa prise de parole de hier soir ?
Il est très critiqué.
Encore plus qu'avant ? Ça envenime un petit peu les. Ça crée le fossé encore plus ? Moi, j'ai l'impression.
Bien sûr, ça a remis une pièce dans la machine et je pense que déjà, il a été sifflé, on l'a dit, car il l'a mentionné. Il a été sifflé lors de son entrée, mais il a vraiment subi une bronca qu'il avait jamais connue depuis son arrivée au Real Madrid. Ça, c'est une réalité. Donc, on a senti déjà ce soir-là qu'il y avait quelque chose qui avait vraiment changé entre lui et les supporters. Et en plus de ça, derrière, il est, j'ai presque envie de dire, venu donner raison à certains des supporters qui l'ont sifflé. Qui l'ont sifflé en tribune, parce que eux, ce qu'ils lui reprochent, c'est pas de ne pas mettre des buts, parce que ça, il en a mis 41 pour le Real Madrid, et statistiquement, c'est vrai qu'il fait une très très belle saison. Ce qu'ils lui reprochent, c'est plutôt l'attitude et ou en tout cas l'image qu'il dégage. Je pense qu'il y a eu des heures de communication. Il y a aussi eu des choses qui ont été faites intentionnellement, comme hier. Et c'est vrai que autant sur ces dernières semaines, ces derniers mois, j'avais tendance à dire sur certaines de ses sorties que j'avais l'impression que c'était plutôt quelqu'un de maladroit, comme par exemple la Panenka hommage à Brahim Diaz.
Ce qui n'était pas Mbappé au départ, hein, souviens-toi Edgar, voilà. Il était tout sauf maladroit dans sa com.
J'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion qui avait créé un joueur un petit peu maladroit avec sa communication. Hier, il a levé tout doute, c'est 100% intentionnel, il a voulu faire passer ces messages-là tout en sachant exactement les conséquences que ça pouvait avoir. Il y a des personnes qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas apprécié. En tout cas, par rapport à Arbeloa, faut pas oublier, il tire sur un homme à terre. Je veux dire, Arbeloa, il lui reste deux matchs à la tête du Real Madrid. Et après, c'est terminé. J'ai l'impression aussi que, en une semaine, en fait, il y avait déjà une maison en feu. T'avais déjà un Real Madrid en crise. Et puis, tu as les deux personnes dont peut-être la parole pèse le plus médiatiquement à Madrid et dans le monde par rapport au Real Madrid, Florentino Pérez et Kylian Mbappé. On pensait qu'ils allaient arriver pour assumer et pour arriver avec un extincteur et commencer à éteindre le feu. Et finalement, il y en a un qui est venu avec un briquet, l'autre avec des allumettes. Ils ont allumé les journaux et ils ont aggravé le feu à la Maison Blanche. Et ça, c'est dommage parce que je pense pas que le Real Madrid avait besoin de tous ces éléments, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que dans le fond, Kylian Mbappé avait tort sur tout. Je pense d'ailleurs qu'il y a certains points qu'il a évoqués où il a complètement raison. Par exemple, quand il parle de ses coéquipiers, qu'il laisse passer des messages dans la presse plutôt que d'assumer, ça, c'est une réalité.
Ouais, mais alors ça, c'est quelque chose, tu vois, j'allais justement t'envoyer là-dessus. C'est-à-dire que moi, il a dit exactement, il me semble, hein, arrête-moi si, enfin, ou contredis-moi, mais que si vous voulez savoir si vous voulez connaître les intentions de ses coéquipiers, fallait qu'il écoute ou qu'il lise la presse. Il me semble que c'est ça. Alors moi, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est que j'ai eu parfois des inimitiés dans le vestiaire avec certains joueurs. La première chose que je faisais lorsque j'avais une inimitié, c'est je ne lui parlais pas. Et lui, s'il te dit aujourd'hui, t'imagines la connerie qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que s'il veut comprendre ce que les autres ou savoir ce que les autres pensent, il faut qu'il écoute là. Ça veut dire que personne lui parle. Les mecs, ils ne lui parlent pas. Ça veut dire que tu t'es foutu le vestiaire pratiquement
après,
à dos.
Après, honnêtement, c'est Lionel dans le football moderne. Le vestiaire, ça parle beaucoup par presse interposée maintenant. Et
non, c'est lui qui l'a dit.
Oui, non, je l'entends, mais ce que je veux dire,
c'est ça, hein.
Ouais, lui, il a dit.
Quand tu ne dis pas les choses,
exactement sur ces mots.
On a bien compris.
Il a dit, je viens en zone mixte parce que notamment, je sais qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. Et pour savoir ce qu'ils pensent, je suis obligé de regarder la presse.
Exactement.
Ouais. Non, mais ça. Messieurs, attendez, on accueille Ahmed parce que ça fait longtemps qu'il attend au 32-16 sur RMC. Bonsoir Ahmed, merci d'être avec nous sur RMC.
Salut Ahmed. La parole.
Ahmed, tu voulais réagir effectivement à cette nouvelle polémique et à cette prise de parole de Kylian Mbappé hier soir en conférence de presse.
Oui, parce que ça fait deux semaines que j'observe un peu sa communication et je vais sur les sites de supporters, youtubeurs qui supportent le Real Madrid, ils sont à l'agonie et j'écoute, parce que moi je suis parisien, et j'écoute et je crois qu'on est en train tous de se faire balader et on prend pas assez de hauteur. Je pense qu'on n'a pas compris que Alonso il a été viré, et ça par le clan Vinicius et quelques deux autres qui sont avec lui, Bellingham,
Valverde.
Donc ça, il l'a très mal pris parce qu'il dit ce club est un club amateur. Ils font venir un entraîneur qui veut donner des structures et eux, ils le virent en mois de décembre alors qu'on était à deux points du Barça. Ils n'étaient pas largués pour le championnat. Et on le vire comme ça. Pérez, il a 80 balais. Ça a été une catastrophe, son intervention télévisée. Il n'est plus en état de diriger un club. C'est une cata. Donc lui, il n'est pas aveugle, Mbappé. Est-ce qu'on veut pas, ce que vous devez voir dans sa stratégie de communication, c'est qu'il est en train de préparer tout doucement son départ. Il s'en va. Il veut pas.
Le départ de Mbappé, t'imagines?
Ah oui, c'est exactement ce qu'il veut. Il sait très bien qu'il est coupé avec les supporters.
Moi, je pense. Je suis d'accord.
Il est coupé avec l'équipe. Kamavinga, les Français s'en vont.
Et tu veux qu'il aille où, Ahmed?
Il va trouver des clubs.
Vous en faites pas.
Non, mais jamais de la vie Kylian Mbappé, il va quitter le Real Madrid pour aller à Arsenal. Et aujourd'hui, même s'il a fait des erreurs de communication, même si on peut remettre en question plein de choses chez lui, il y a une chose qui est vraie quand même, c'est que c'est censé être le club de sa vie et que c'est quand même le club où il rêve de jouer depuis petit. Donc ça m'étonnerait qu'après deux ans, juste parce que ça se passe mal avec Arbeloa, qui avait jamais coaché un match en pro et qui va partir dans deux semaines, il a envie de quitter le club.
Le football a vraiment une mémoire courte, parce que n'oubliez pas qu'on a célébré justement le record de buts sur une année civile. Enfin, voilà, Kylian Mbappé. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, Edgar. Je voulais très vite rebondir sur les sifflets de Bernabéu. Je pense que Cristiano Ronaldo a été sifflé. On connaît un peu le Real Madrid. On connaît un petit peu le contexte de ce club. On sait que c'est un club qui a l'habitude de gagner. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Moi, je suis pas vraiment inquiet pour Kylian Mbappé. C'est une période qui est un petit peu compliquée. Je pense que ça fonctionne pas avec Arbeloa, à condition évidemment que le coach change. Et je pense que ça va être le cas. Je parle sous ton contrôle. Mais si jamais Mourinho devait arriver.
Mourinho,
ça partirait de zéro, et puis Kylian Mbappé est quelqu'un d'intelligent.
Mourinho avec Mbappé, je sais à quoi il va s'attendre.
Ça peut peut-être fonctionner avec lui, en tout cas à condition qu'il change sa communication et qu'il se remette un peu plus au service du collectif.
Pour moi, le seul qui est capable de le remettre bien, si jamais il y a changement d'entraîneur, c'est Dédé.
Ah, ça, voilà.
Ahmed, le mot de la fin, donc pour toi, c'est finalement une communication maîtrisée de Mbappé pour pouvoir quitter le Real Madrid. Là, t'es quand même allé assez loin dans
le
scénario.
Le Barça sera champion l'année prochaine et il fera un doublé avec la Coupe du Roi. Le Barça est en avance, ils ont un entraîneur en place, ils ont un projet, ils ont une équipe. Ils leur ont mis 11 points d'avance, ils les ont lavés cette année. Le Barça ne sera pas touché. Donc Mbappé ne peut pas être dans l'ombre du Barça. Il ne peut pas rester dans une équipe qui a perdu Marcelo, Casimiro, Kroos, Modric, Benzema, Ramos, tous les papas qui tenaient la boutique sont partis et Pérez ne les a pas remplacés. Il se retrouve avec des seconds couteaux, des joueurs qui n'étaient pas toujours des titulaires, qui ne sont pas capables de porter. Parce qu'il n'y a pas qu'Mbappé, on peut taper sur Mbappé. J'aime pas Mbappé, moi je l'appelle Boulard. Je n'aime pas Mbappé, mais on ne peut pas taper que sur lui. Cette équipe n'a pas de niveau. Et il le sait. Il sait qu'il est en train de perdre son temps et qu'il va qu'en faire une saison blanche l'année prochaine. Il sait qu'il y a peut-être d'autres clubs en Angleterre qui vont s'intéresser à lui. Pérez, il a 80 ans, c'est une catastrophe. En plus, il est directeur sportif. Il est président, directeur sportif. J'ai les deux. Donc aujourd'hui, la Maison Blanche, elle est par terre. Il est sifflé. Il sait que c'est bon. Il est cuit avec les supporters de Madrid.
Les supporters madrilènes, tu marques et ça se renverse. C'est le principe des supporters.
Du football, on
aura
du
avec les supporters. Il peut inverser la tendance. Mais par contre, pour inverser la tendance, il faudra faire gagner des titres collectifs.
Oui. On parle évidemment de Liga, de Ligue des Champions, parce que c'est pour ça aussi, évidemment, que Kylian Mbappé est allé au Real Madrid. Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir été avec nous au 32-16.
Salut, Ahmed.
Edgar, le mot de la fin pour toi, est-ce qu'on a tout revu avec toi par rapport à ce nouveau scandale? Parce qu'on rappelle que les semaines du Real Madrid sont quand même assez tendues.
Oui, par rapport à ça, oui. Maintenant, il y a des nouveaux sujets toutes les 10 minutes. Je vois maintenant ces dernières minutes, ces dernières heures, toute la presse madrilène et espagnole qui annonce que c'est quasiment fait pour José Mourinho. Donc, je ne doute pas qu'on aura des choses à se dire très très rapidement.
Ça va être génial. Moi, j'ai hâte de vivre le retour du Mou, le Special One, le seul, l'unique. Ça va être fabuleux. Merci beaucoup, Edgar, d'avoir été avec nous sur RMC.
Merci, à très vite.
On est ensemble jusqu'à minuit. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h32, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chano et Lionel Charbonnier. On vous rappelle qu'on a eu le plaisir d'avoir le gardien de Saint-Étienne qui a été absolument incroyable. Vous pouvez retrouver l'entretien évidemment sur rmcsport.fr, mot bleu, qui a permis à son équipe de gagner la séance de tir au but. Il y avait eu 0-0 face à Rodez et donc Saint-Étienne continue sa quête vers la Ligue. Ligue 1. Il y aura donc deux matchs face au 16e de Ligue 1. Alors, n'en déplaise à un monsieur sur WhatsApp, alors j'ai plus trouvé son nom, qui me disait: Karine veut absolument que ça soit Nice. Alors non, je ne veux pas que ça soit Nice, je m'en moque. Actuellement, Nice est 16e, donc c'est pour ça que je dis si c'était Nice. Mais on rappelle que ça peut être évidemment Le Havre ou Auxerre qui seraient donc les barragistes et donc adversaires de Saint-Etienne. Et on rappelle que les dates, elles ont été données, c'est pas moi, c'est la Ligue. Les dates, c'est le jeudi 21 mai alors, et le dimanche 24 mai. Et que si effectivement Nice est le 16e, eh bien les dates évolueraient parce qu'il y a entre-temps la finale de la Coupe de France. Voilà, on va revenir à l'actualité. Hier, il y a un homme qui a été forcément le plus heureux du monde. C'est Robin Rissert. C'est la surprise. Et Didier Deschamps n'est pas un amateur de surprise. Et pourtant, il a décidé d'appeler le gardien de Strasbourg en tant que numéro 3. Il a seulement 21 ans, Robin Rissert, de Lens, pardon. Pourquoi j'ai dit Strasbourg? Oui, parce que l'ancien Strasbourgeois, effectivement.
Ils doivent le regretter, d'ailleurs.
Ils le regrettent.
Ouais. Le gardien de Lens, il a donc ce rôle de numéro 3. C'est assez surprenant parce que c'est vrai que souvent les gardiens numéro 3 sont plutôt des gardiens âgés. Et toi, Lionel, qui a été évidemment en équipe de France, qui était le numéro 3 en 98, tu trouves que c'est une bonne idée? Dis-nous pourquoi finalement ce poste de numéro 3 peut évoluer.
Une bonne idée. Alors, par
jingle,
rapport...
Jingle, il y a ton jingle.
Contre ces équipes-là, tu dois leur mettre une tôle. À la mi-temps, c'est fini. 20 minutes de jeu, ça y est, c'est emballé, c'est empelé.
Donc Robin Rissert, numéro 3, appelé par Didier Deschamps pour la première fois, on le rappelle, en A, c'est une bonne chose.
Oui, je pense que c'est en tout cas sur la saison qu'il a fait. Maintenant, il y a 10 jours en arrière, je te disais, je le voyais un petit peu plus en difficulté. Notamment, je me posais des questions par rapport à la pression. Est-ce qu'il était capable de supporter cette pression? Parce qu'il a été très très bon. Il a fait une saison extraordinaire. Hein. Il est le top gardien de Ligue 1. Il y a aucun souci là-dessus. Je vais pas remettre ça en cause. Mais par contre, sous la pression, quand Lens devait venir titiller un petit peu le PSG et qu'il y a eu cette pression de gagner les matchs absolument pour venir gagner le titre, et ben là, il était moins performant. Il a porté beaucoup moins. Il a eu un petit creux. Et je me suis dit, est-ce qu'il est capable de supporter cette pression? D'autant plus qu'il a été regardé par Franck Raviot qui était là dans les tribunes.
Il est passé à travers.
Ça m'a rappelé tout d'un coup. Je me suis dit, on dirait un petit peu Lionel Letizy à l'époque en 98. J'ai dit, est-ce qu'il est capable psychologiquement, est-ce qu'il est prêt à supporter ce truc là et puis après donc je me suis dit, on a parlé un petit peu d'Hugo Lloris et j'ai dit ça serait pas une mauvaise idée de rappeler Hugo à partir du moment où Hugo dit oui, je suis d'accord pour revenir et jouer ce rôle là alors le gardien numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 1, oui, numéro 2, numéro 3, moi j'y crois pas, il n'y a pas de numéro. Il faut un gardien qui donne de sa personne, qui soit très intelligent, qui soit, quand je dis intelligent, qui sache où se situer dans le vestiaire.
Mais normalement, il est plus âgé, le numéro 3. Là, c'est une surprise, non ?
Pas obligé, parce que si tu joues la carte du futur, moi je trouve ça très bien et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée pour un futur proche. Je pense que c'est un gardien en devenir. On va voir, il va faire la Coupe d'Europe là l'année prochaine. Comment il va se comporter dans les matchs internationaux et s'il a la stature, je dirais peut-être même le mental pour aborder ces matchs internationaux, pourquoi pas? Et il peut devenir un futur numéro 1 français. Donc apprendre à gagner, regarder comment on fait, comment on gère une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est très fatigant, c'est très très usant. Donc qu'il apprenne le métier autour de Brice Samba et de Mike Maignan, je trouve ça. Et puis ça lui donne de l'expérience pour gérer ces matchs-là, regarder comment les autres font, et puis aider les autres à gagner. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, c'est un gardien qui connaît quand même le groupe parce que quand il était avec les espoirs, il a été canardé par ces joueurs-là. Il a fait des séances avec Léa. On a vu son abnégation, son faire-valoir parce qu'il faut être aussi un faire-valoir quant à ce poste-là. Et ça, tout ça, il l'a. Et puis après, t'attends que c'est pour ça que tu disais, il faut un gardien avec plus d'expérience. T'attends que le numéro 3, entre guillemets, parce qu'on voulait donner des numéros, il soit là un peu en leader, qui guide un peu les autres, qui et puis ça c'est une option. La deuxième option, c'est avoir un gardien qui sait se donner pour les autres, faire des entraînements, plus d'entraînements pour mettre en valeur les attaquants et tout ça. Mais par contre, qui ouvre pas sa bouche et qui fait pas d'esclandre. Et lui, c'est un bon mec. Et là-dessus, il remplit ce rôle-là. Il y a aucun souci.
On rappelle que Robin Risser a été élu meilleur gardien de Ligue 1 McDonald au trophée UNFP. C'était en début de semaine. Et donc, il a appelé pour la première fois en A. Il a 21 ans. On lui a demandé justement, c'est quoi être gardien numéro 3? On écoute.
Je l'ai connu la saison dernière à Strasbourg en début de saison. C'est quelque chose que oui, j'ai connu. Je pense que en club c'est toujours un peu moins agréable parce que je suis un compétiteur et j'aime jouer. Aujourd'hui c'est tout autre. Comme voilà, c'est l'équipe de France et l'équipe de France pour moi c'est le Graal et il y a rien de plus haut que ça. C'est une expérience énorme qu'on me donne la possibilité de vivre. Donc je suis très fier d'occuper ce poste là et d'avoir ce costume là.
Écoute, moi, je rejoins l'avis de Lionel sur la sélection de Risser. Je trouve que c'est une très bonne idée de Didier Deschamps, hein, de l'avoir sélectionné. Alors déjà, parce qu'il a fait une très très belle saison en Ligue 1. Tu l'as très justement dit, Karine. Il a fini dans l'équipe type de l'année cette saison. Et silence et second, c'est en partie grâce à lui. Parce que même si Lionel l'a dit, il a eu un petit coup de moins bien après l'arrivée de Franck Raviot, là, quand il a su qu'il a été, en tout cas, dans les plans pour l'équipe de France, dans la présélection, entre guillemets. C'est vrai qu'il a eu un petit coup de moins bien, mais ça aussi... corroborer un petit peu avec la baisse de forme du Racing Club de Lens.
Mais il a su rebondir.
Mais il a su rebondir, exactement. Par contre, moi, ce qui joue en sa défaveur, c'est quand même la méconnaissance du très très haut niveau. Et on sait que la Coupe du Monde, c'est le Graal pour tous les footballeurs. Et donc, c'est vrai que ne pas savoir la manière dont il va gérer la pression, parce qu'on ne sait jamais. Alors bon, ça, c'est quasiment arrivé. Il faudrait qu'on regarde dans l'histoire du football. Mais je pense que dans une grande compétition, avoir le gardien numéro 1 et le gardien numéro 2 qui se blessent et le gardien numéro 3 qui joue, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. En tout cas, si c'est le cas, et à partir du moment que tu fais partie des 26, on doit quand même avoir un joueur qui est en mesure de pouvoir jouer un match, peut-être même plus de Coupe du Monde. Voilà. Après, moi, ce qui me pose un petit peu question, c'est, et on connaît très bien le pragmatisme de Didier Deschamps, c'est dans son intégration dans le groupe. On sait que Deschamps a tendance parfois à sélectionner la personne plus que le joueur, et encore plus en tant que numéro 3. Lionel, sans manquer de respect, parce que je sais que tu as occupé ce poste-là, et ça ne remet absolument pas en cause ta très très grande carrière, ni les qualités de Robin Risser, mais c'est vrai que j'étais un petit peu surpris, j'entendais hier, on en discutait quand on me disait, ouais, on prépare l'avenir, mais est-ce que Didier Deschamps vraiment prépare l'avenir? C'est sa dernière compétition.
Oui, il prépare pas l'avenir des Bleus, lui, il prépare sa Coupe du Monde.
Exactement, lui, ce qu'il a.
Non, mais je pense
lui
qu'il a sauté sur l'occasion, sur la blessure, ouais, sur la méforme et la
après,
saison
il a dit de Chevalier.
Et j'allais en venir, en
mais
fait.
Bien évidemment.
Chevalier blessé,
si Chevalier n'avait pas connu cette saison catastrophique pour lui, il aurait jamais pris Robin.
Et j'allais y venir, je pense qu'en fait, finalement, Risser revient un petit peu dans l'équation parce que Chevalier a une deuxième partie de saison catastrophique. On n'oublie pas, hein, qu'il n'a pas joué depuis janvier, qu'en plus de ça, il est blessé. Pareil pour Areola. On a parlé d'Hugo Lloris, mais je voyais mal Hugo Lloris rester à la fin de l'entraînement en tant que numéro 3, se faire allumer par les attaquants, alors qu'il a connu quand même le poste de numéro 1 en étant capitaine de l'équipe de France. Je connaissant Hugo et connaissant, bon, je sais pas en tout cas si.
Il n'y a aucun intérêt
pour lui. Et puis encore une fois, il est sur une fin de carrière. Et moi, j'ai même entendu qu'il y avait eu même aucun contact entre Hugo Lloris et l'équipe de France. Bon, après, ça n'engage que moi, mais je pense pas que c'était forcément une situation de win-win, que ça soit pour l'équipe de France, mais surtout pour lui. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que quand je vois un petit peu et quand je connais Deschamps, quand je connais son pragmatisme, le fait de sélectionner Robin Risser, oui, je suis surpris. Malgré tout, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée.
Il n'y a pas grand chose, hein.
Messieurs, on accueille Grégoire, il va nous dire ce qu'il en pense. Il est au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir, Grégoire.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Grégoire.
Grégoire, tu es supporter lensois. On sait qu'il y a des lensois qui sont déçus parce qu'il n'y a pas Udol, parce qu'il n'y a pas Thauvin. Mais j'imagine que la surprise Robin Risser te ravit.
Quelle fierté. Franchement, quelle fierté. Faut pas oublier un gardien de 21 ans qui aujourd'hui est sélectionné en équipe de France. Il fait une saison extraordinaire cette année. Alors, il a eu 2-3 loupés, il faut le reconnaître. Mais sur la longévité, franchement, grâce à lui, on arrive aujourd'hui deuxième du classement. Il vient pas en terre inconnue en équipe de France puisqu'il est déjà, il a déjà été gardien en équipe espoir. Donc quand on est gardien en équipe espoir, des fois on vient dépanner en équipe A, on fait des petits entraînements à Clairefontaine.
Lionel l'a rappelé, c'est effectivement le cas parce que Didier Deschamps en a parlé, mais après il va découvrir quand même le monde des A.
Oui, bien sûr, il va découvrir, mais c'est pas un monde inconnu pour lui. Je pense que voilà, il va s'adapter facilement. Il nous fait une saison absolument extraordinaire. Il y a eu quelques doutes qui ont été posés. Mais franchement, à 21 ans, ce qu'il nous fait, on a une stabilité au poste de gardien de but. Et moi, je l'ai toujours soutenu. Il y a eu 2-3 loupés, dans la saison, il faut pas l'oublier. Maintenant, c'est sa première saison
mais
en Ligue 1.
Excuse-moi, Grégoire, les loupés, est-ce que tu trouves? Alors moi, je les ai analysés comme ça, mais c'est peut-être que je me trompe. Hein,
oui.
Mais les loupés qu'il y a eu les plus importants, je trouve que c'était justement au moment où il y avait cette pression où Lens pouvait aller chercher le titre parce qu'on voyait que le PSG était pas exceptionnel, ne dominait plus son championnat. Il y avait la Champions League qui était là et tout ça. Et dans ces moments-là, là où Lens devait aller gagner, il y avait cette pression sur ces matchs-là, et c'est là où il s'est loupé. Et je me suis dit, ah, est-ce que il est capable de tenir cette vraie pression? Parce que être gardien de but de Lens, lorsque Lens n'est pas programmé pour être là, tu te retrouves à cette place-là, tu te dis, bon, t'as pas la pression de te louper, de toute façon, on devait pas y être, et là, et donc, dans la dynamique, tu y vas, mais après, quand on dit, ah ouais, mais là, on va jouer le titre, et c'est là qu'il s'est un petit peu loupé. Et derrière, il s'est très, très bien repris, d'ailleurs, suite à ça.
Je comprends l'analyse. Maintenant, les deux loupés qu'il y a eu, je vais vous les citer. Hein. Il y a eu Monaco et il y a eu Toulouse. Monaco, il y a eu une défaite qui a suivi, donc forcément, ça fait mal au casque. Je le sais, on a perdu 3-2 alors qu'on gagnait 2-0. Le deuxième match, oui, il y a eu le loupé, c'est Toulouse où il se trouve complètement et derrière, on gagne le match. Donc j'ai envie de dire, on oublie l'erreur. Aujourd'hui, comme je le répète, c'est une première saison en Ligue 1 pour un jeune homme de 21 ans en tant que gardien de but.
Mais attention, hein, Grégoire, par contre, là, je t'arrête juste. Oui. La première saison en Ligue 1, c'est pas la plus compliquée. La plus compliquée, c'est la deuxième. Parce que c'est la deuxième. Je te promets. Comment?
Vous le savez très bien, le poste de gardien de but, une première saison en Ligue 1, il y a une pression qui est énorme. Il faut créer du lien avec les défenseurs.
Non, alors ce que je sais très bien, c'est ce que je suis en train de te dire. La première saison, elle n'est vraiment pas compliquée parce que tu fais ta saison. Maintenant, la plus compliquée, ça va être la deuxième. Parce qu'il va falloir qu'il confirme sa première saison et la deuxième, vous allez tous l'attendre au virage. Ouais. Est-ce qu'il la première, il n'y a pas de souci. La deuxième, elle est très compliquée. S'il passe la deuxième, ça sera un très très grand gardien.
Ouais, Lionel parlait avec son expérience. Enfin, moi, je voulais
à 300%, Grégoire. Ouais, tu m'excuseras.
Moi, je voulais rebondir parce que justement, j'avais dit hier que l'équipe de France, finalement, à travers la liste de Didier Deschamps, c'était pas forcément la vitrine de la Ligue 1. Et je trouve que c'est une bonne chose quand même pour notre championnat français que Robin Risser puisse être sélectionné. Je pense évidemment à Cliouche aussi parce qu'aujourd'hui dans
et
une Ligue 1,
et ça va lancer sa deuxième saison
aussi. Mais en tout cas, je te parle vraiment de généralité. Je trouve que c'est bien d'avoir des joueurs du championnat de Ligue 1 d'être sélectionnés en équipe de France et pour cette Coupe du Monde. Je trouve que ça fait de la bonne pub pour notre championnat quand même, qui à l'heure actuelle où est-ce que il souffre un petit peu des droits télé, avoir des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France. Bravo, je suis très très heureux pour eux.
Grégoire, merci d'avoir été avec nous et on te souhaite évidemment une belle fin de saison avec le dernier match et évidemment la finale de la Coupe de France. Belle soirée à toi, Grégoire. Dans quelques instants, on va continuer à parler évidemment de l'actualité et c'est notamment Marseille qui pourrait jouer la Ligue Europa. Abi Bey en a parlé en conférence de presse. On est ensemble jusqu'à minuit, ne bougez pas.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. On est ensemble jusqu'à minuit. On parle évidemment de l'actualité de la Ligue 1. Il y a donc cette dernière journée, ce dernier multiplex. Ça sera dimanche. Je vous rappelle les affiches. Le Paris FC face au PSG qui a été sacré champion de France cette semaine sur la pelouse de Lens. Lyon opposé à Lens. Lille Auxerre, Strasbourg Monaco, Lorient Le Havre, Nantes Toulouse, Brest Angers, Nice Metz. Et puis évidemment, ce sont les hasard des calendriers, Marseille-Rennes pour terminer la saison. Donc, les retrouvailles d'Abi Bey avec son ancien club, lui qui a quitté Rennes, qui a été limogé en cours de saison et qui a rebondi à Marseille. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche pour l'entraîneur olympien? On l'écoute.
Vous savez, il y a 5 ans, j'étais entraîneur d'une équipe de nationale. Et aujourd'hui, 5 ans après, je suis entraîneur d'Olympique de Marseille. Et j'ai passé des étapes dans ma vie et dans mes étapes de vie en tant qu'entraîneur, il y a eu le Stade Rennais. Et donc, je suis pas du tout dans cette logique-là de revanche ou quoi que ce soit. J'ai eu mon histoire au Stade Rennais, j'ai mon histoire aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Et il faut que je puisse finir, en tout cas, cette saison par une belle sortie sur notre dernier match à domicile. Il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de regret. J'ai vécu mon histoire au Stade Rennais, j'ai mon histoire aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi.
Messieurs, il y a donc cet ultime match. On rappelle qu'il y a beaucoup de scénarios. C'est un petit peu compliqué par rapport au classement final. Aujourd'hui, Marseille est derrière les Rennais, mais donc il y a cette confrontation directe entre les deux. Rennes est 5e avec 59 points. Marseille est 6e avec 56 points. Il se pourrait que potentiellement, eh bien, Marseille joue la Ligue Europa. Si Marseille bat les Rennais, il serait cinquième. Et il y a également, dans l'état actuel des choses, la sixième place qui est qualificative pour les barrages de la Ligue Conférence. Il y a beaucoup de scénarios, parce qu'il y a aussi évidemment le résultat de la finale de la Coupe de France. Est-ce que vous y croyez, ça, au fait qu'il n'y ait pas de sentiment de revanche, alors que la saison de Marseille se joue quand même dimanche, entre la Ligue Europa ou potentiellement rien, parce qu'on rappelle qu'il y a aussi Monaco qui peut repasser devant Marseille, etc. Même si évidemment on n'aura pas l'avenir européen des clubs acté, parce qu'il y a cette histoire de Coupe de France, c'est quand même pas la même chose. Une Ligue Europa, c'est pas rien.
Alors quand tu parles de sentiment de revanche, c'est vis-à-vis du Stade Rennais d'avoir été débarqué, ou c'est vis-à-vis de la situation marseillaise, ou c'est-à-dire qu'il y a encore deux journées, ils étaient hors qualification européenne.
Bah, les deux en fait, oui. Finalement, parce que si il bat son adversaire dimanche, en l'occurrence c'est Rennes, il y a aussi la possibilité de finir devant Rennes, alors que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais certains disent Rennes avec Francais, c'est bien mieux qu'avec Abi Bey.
C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut séquencer son analyse en deux. Déjà, vis-à-vis de Rennes, évidemment qu'il y a quand même un sentiment de d'inachevé. Et puis quand tu vois ce que Francais a fait derrière, en effet, enfin, je me mets à la place d'Abi Bey, on sait qu'il va forcément être à la fin de la saison comparé à Francais, qui a fait un superbe travail. Après, par rapport à la situation marseillaise, j'ai envie de te dire, et pendant longtemps ils nous a vendu le projet, je suis arrivé en tant que quatrième, on était troisième. Je me rappelle aussi que la semaine dernière, quand ils étaient septième, la donne avait changé. Ce qui est le plus important maintenant à Abi Bey, c'est pas de savoir s'il y a un sentiment de revanche, c'est surtout de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Pour l'Europa League, on sait que pour la Ligue des Champions, c'est mort. On sait que le bilan d'Abi Bey, il est catastrophique, hein, d'un point de vue contenu.
Comptable.
Comptable, si jamais aussi il devait se qualifier pour l'Europa League, ça serait pas si catastrophique que ça. Bon, je sais aussi que l'Olympique de Marseille, les Marseillais ont vibré quand même à chaque fois que Marseille était engagé en Europa League. Hein, on se rappelle de ces deux finales perdues, là, sur les 10 dernières années. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à finir en arrondissant les angles, c'est-à-dire en essayant de gagner contre Rennes, et puis en espérant que l'Olympique de Marseille puisse se qualifier en Europa League, et puis on fera le point par rapport à Abi Bey, que ça soit par rapport à son passage au Stade Rennais et son passage à l'Olympique de Marseille à la fin de la saison. Mais clairement, c'est sûr que c'est forcément un match spécial. C'est quand même assez cocasse, hein, de se retrouver dans cette situation de l'Olympique de Marseille, de jouer contre le Stade Rennais avec un Abi Bey qui, on le rappelle, a entraîné les deux équipes cette saison.
Et on rappelle que l'an dernier, c'était déjà la dernière journée Marseille-Rennes, mais là ça n'avait rien à voir. Il y avait d'ailleurs eu, et on a eu cette semaine le bonheur d'avoir Steve Mandanda invité de l'Afterfoot, le cadeau qu'Abi Bey avait fait à Steve Mandanda en lui disant il faut absolument que tu rentres, il faut absolument que tu joues ce match. Il n'avait pas voulu jouer le match, mais il avait accepté de rentrer pour les ultimes secondes, et donc il avait pu faire ses adieux à Marseille avec le maillot rennais, mais en ayant les deux brassards de capitaine.
Moi je pense, Max, que c'est catastrophique. Depuis qu'il est arrivé, honnêtement, comptablement, pour moi, c'est. Tu viens avec deux objectifs. On te dit, t'as deux objectifs, la coupe de France et la qualification pour la Champions League. T'as aucun des deux. Et pire que ça, cerise sous le gâteau, t'as un vestiaire qui part en lambeaux complet, une scission complète entre les supporters et l'équipe et tout ça, et ça n'a fait que s'envenimer. Alors je dis pas que c'est lui le principal responsable, mais en tout cas il a rien fait. Il avait cette mission là de pouvoir raccorder les morceaux, de d'avoir deux objectifs. Il en fait partie, avec les joueurs, avec surtout aussi les dirigeants. C'est une saison pour moi catastrophique.
Mais on est d'accord sur ce point-là, hein, Lionel. On sait que c'est catastrophique. On va pas revenir sur l'historique.
Financièrement aussi.
Ah oui, bon, ça c'est encore autre chose. Mais on parle vraiment d'un point de vue sportif et ce qu'Abi Bey a apporté. Moi, pourquoi je parle comme ça aujourd'hui, Lionel, c'est parce qu'en fait j'ai digéré ce qui s'est passé sur les 5, 6, 7 dernières semaines.
On est obligé.
Sinon on s'arrache les cheveux de la tête les jours là, on est tombé encore très très bas quand il y a eu l'histoire avec Aubameyang. D'ailleurs Aubameyang qui est de retour dans le groupe, voilà, c'est aucun sens, mais bon, pourquoi pas, après son histoire avec Sancteur. Mais tout ça pour te dire qu'on est sur la même longueur d'onde, Lionel. Ce qu'a fait l'Olympique de Marseille en deuxième partie de saison, c'est un scandale. Je reviens même à regretter De Zerbi, c'est dire, alors que je l'ai cartonné pendant plus de 6 mois. Mais voilà, Abi Bey aujourd'hui il se retrouve dans une situation où il a possiblement une situation de pouvoir se qualifier en Europa League. Et si jamais l'Olympique de Marseille devait se qualifier en Europa League, bah écoute, on serait pas par satisfait, contre, mais en parlé. Tout cas, on serait oui. pas satisfait, mais en tout cas, on se dirait bon bah écoute, voilà, maintenant c'est fait. Le plus important, c'est de réenchaîner sur cette saison prochaine avec une qualif en Coupe d'Europe, ce qui change beaucoup de choses d'un point de vue déjà financier, mais surtout.
Oui, mais la Ligue Europa, ça rapporte.
Mais c'est toujours mieux que zéro. C'est toujours mieux que se retrouver à la 8e place et de jouer uniquement la Ligue 1, mais surtout pour attirer des joueurs, parce que quand t'es qualifié en Coupe d'Europe, eh ben t'attires pas les mêmes joueurs.
On accueille Antoine, supporter marseillais au 32-16 sur RMC. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir.
Bonjour Antoine.
Antoine, on rappelle, alors que c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de scénarios avec cette histoire de Coupe de France et par rapport évidemment au nom du vainqueur. Hein, si c'est Lens, si c'est Nice, ça change la donne. Mais en tout cas, la réalité, c'est que si Marseille gagne son match, ils sont cinquième. Ils n'ont pas besoin de voir les résultats des autres. Et donc, la cinquième place, c'est un ticket direct pour la Ligue Europa. Est-ce que pour toi, ça sauverait la saison où tu peux pas oublier tous les dramas qu'il y a eu au cours de cette saison, toutes les déconvenues, tous les scandales et le fait que Marseille a le deuxième budget de Ligue 1 et donc qu'ils ne sont pas du tout dans les clous?
Alors, pour moi, à titre personnel, j'ai le sentiment que non, ça ne sauverait pas la saison. Et sans faire le porte-parole des miens, comme je suis marseillais, je peux plus ou moins prendre la température de ce que je ressens, ce que j'entends autour de moi. Et je vous avouerai que pour nous, ici, en majorité, non, on n'aura pas le sentiment d'avoir la saison sauvée, même si on venait à se qualifier en Europa League. Ce serait bien comme sûr. Un lot de consolation. L'Europa League, on a su être dans l'appréciation quand, à l'époque, on a commencé la compétition avec Clinton Enge, Valère Germain, Mitroglou. Mais là, avec des types comme Hubert, comme Greenwood, comme Aubameyang, comme Petro, qu'on a payé 40 briques, le lot de consolation, je vous avoue que...
Ben, Antoine, on t'a perdu quoi.
Ah, allô.
Oui, t'es ouais, toujours avec nous, pas
le lot de consolation.
Ouais, non, je vous disais que non, le lot de consolation ne nous satisfera pas, c'est évident.
Donc tu préfères pas te qualifier en Coupe d'Europe ou tu préfères
non,
quand même avoir
bah,
si, c'est un peu ça, c'est
bah,
le lot de consolation. J'ai bien compris que sur le total de la saison, en effet, c'est une déception. Mais quand on regarde, il y a encore deux semaines, où est-ce que l'équipe était en train d'imploser parce qu'il n'y a pas d'autre terme de l'intérieur après leur stage et compagnie. Il aurait fallu d'ailleurs qu'ils fassent un stage sur la Lune. Je crois que ça aurait peut-être été beaucoup plus salvateur qu'aller ailleurs. Mais aujourd'hui, t'es peut-être à un match de te qualifier en Europa League. Alors je dis pas qu'en effet on va sauter sur la canebière, mais bon, il y a quand
mais
même.
Tu te rends compte tout ce qu'ils ont vécu.
Mais mais c'est pas ça. Il faut séquencer entre ce qui s'est passé depuis l'arrivée d'Habib Bey, à jusqu'à il y a une semaine où est-ce qu'on pensait absolument pas que l'Olympique de Marseille serait en mesure de pouvoir se qualifier en Europa League, c'est tout.
Antoine.
Ouais, vous parlez du stage sur la Lune pour vous reprendre. Je sais même pas s'il aurait fait son effet pour aller dans votre sens. Mais non, malgré le fait où on pouvait être déjà deux semaines, je vous avouerai que nous ici, la saison, on a le sentiment que ça fait trois mois qu'elle est déjà finie. On est déjà pratiquement tous focus, on a tous déjà le cœur à la saison prochaine. Et je pense qu'on serait tous d'avis de repartir sur une saison à un match par semaine, parce que je pense même pas que ça nous satisferait. Je veux dire, ces mecs-là qui ont tant souffert cette année, les envoyer tous les trois jours à l'autre bout de l'Europe pour jouer à 19h, revenir après jouer à Nantes à 17, ce serait un calvaire. Moi, je pense qu'il faut tout raser et... repartir à zéro.
Le mot de la fin avec toi Antoine, est-ce que tu penses que Marseille est en capacité de battre Rennes ce dernier match avec des conséquences importantes quand même? On rappelle, Marseille peut aller reprendre cette cinquième place au Rennais.
Sur 90 minutes, oui évidemment, mais étrangement c'est presque ce que je ne leur souhaite pas.
Eh bien, écoute, très bien. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Merci Maxime, merci Lionel. Dans
bonne
quelques instants,
tous.
Évidemment, vous
salut
avez les nuits du Khazar enchaînées avec Benoît Assou-Ekotto, ancien joueur des Spurs notamment, qui est l'invité de JC Drouet et de Julien Khazar. Merci à Théo, à Daniel qui était aux manettes. Et je vous rappelle qu'il y avait un invité exceptionnel ce soir, c'est Maubleu, le gardien de Saint-Etienne qui est entré pour la séance de tir au but. Saint-Etienne qui continue sa route vers la Ligue 1 et qui jouera les barrages face au 16e de notre championnat. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'after foot.